Eh bien bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, devrais-je vous dire bonsoir puisque nous sommes en direct le 1er juillet, il est 19h30 dans le studio de Radio Courtoisie, dans ce libre journal de la résistance française. Nous résistons durant l'été, malgré la chaleur, malgré la canicule. Mais il n'y a plus de canicule, mais bon, il fait chaud quand même. Il paraît que c'est un réchauffement climatique de nature anthropique, comme le dit le conseil scientifique, qui est... à l'origine de cette fausse information qu'on appelle plus communément fake news, sur de l'information mensongère. Et puis tiens, je vais quand même, ceci dit, regarder un petit peu où se trouve le climatiseur dans le studio, parce que j'admets que j'ai un peu chaud. Si on pouvait peut-être baisser un peu plus, je vais m'en occuper dans un instant. Merci à Aline qui réalisera cette émission ce soir et que je remercie d'avance. Que ferions-nous sans nos techniciens? Eh bien, on ferait pas d'émission, voilà. Donc nous arrivons après, donc je crois, une émission de Restons Courtois. Difficile de rester courtois en toutes circonstances, hein. Surtout que la courtoisie, ce n'est pas que une question de politesse, c'est aussi beaucoup plus que ça. C'est un art, l'art de la chevalerie, de la chevalerie et de l'amour courtois. Et nous sommes sur Radio Courtoisie, donc nous serons courtois ce soir durant une heure et demie d'émission de ce libre journal avec mon invité du soir, avec qui nous allons traiter des origines franc-maçonnes, païennes, disons-le païennes, de la République au travers un monument symbolique, s'il en est un, c'est celui-ci, de cette République, c'est-à-dire l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe où nous serons conviés à rallumer la flamme du soldat inconnu, c'est tous les jours, mais le 14 juillet en particulier, bien sûr, fête de la République, fête nationale, surtout fête de la République. Certains préfèrent s'attacher au 15 août à la fête de la Sainte Vierge comme fête nationale. Ce fut longtemps d'ailleurs la fête nationale, le 15 août. On n'oublie pas que la sainte patronne de la France, c'est la Vierge Marie, bien sûr. Et non Marianne. Marianne est une sorte d'anti-vierge pour certains. Et cette anti-vierge, elle préside aux cérémonies du 14 juillet. Et ça me fait penser d'ailleurs à ces déesses du foyer, telles qu'Estia qui rallumait le feu. Et bien là, le feu sacré, il est rallumé tous les jours. Et ce sera un des éléments d'ailleurs du contexte dans lequel nous allons évoluer dans cette émission. Le titre du livre dont nous allons parler ce soir, chers auditeurs, « La remarquable découverte de l'ami Ursule ». C'est une auto-édition, les chroniques de LRDS. Notre invité, vous allez pouvoir ce soir lui poser des questions. N'hésitez surtout pas par principalement courriel électronique. Et éventuellement, s'il y a quelqu'un, me dit-on non, au standard, voilà, donc il n'y aura personne au standard, donc ça ne sert à rien, n'appelez pas le standard, on ne répondra pas, tout simplement. Par contre, n'hésitez pas à nous écrire par courriel et nous répondrons avec l'invité à l'ensemble des questions, remarques, observations qui pourraient être les vôtres ce soir. C'est un livre qui est passionnant, La remarquable découverte de l'ami Ursule. Et l'auteur en parle avec passion, avec talent, et aiguise notre curiosité, donne envie, je pense, de lire le livre suite aux échanges que nous allons avoir. J'anticipe peut-être, après tout, nous sommes en direct, nous allons voir. Et donc, je voulais saluer l'invité donc du jour dans ce livre journal de la Résistance française, qui n'est autre que Victor Baugé. Bonsoir, mon cher Victor.
Bonsoir, Nicolas. Je suis absolument ravi d'être ici.
Alors, on ne se quitte plus, puisque nous étions hier soir à 19h sur les antennes en direct de GPTV pour traiter justement de ce sujet, déjà mardi, sur les origines justement païennes de l'Arc de Triomphe, puisque c'est ce monument en particulier qu'on va découvrir ensemble. C'est bien ça, Victor?
Tout à fait.
L'Arc de Triomphe, et puis c'est surtout un haut-relief, mais on ne va pas anticiper. On va juste peut-être dire quelques mots sur le livre. C'est un livre qui se lit un petit peu comme un roman du Da Vinci Code, quelque chose comme ça. Vous l'avez voulu et pensé d'ailleurs, Victor, comme un roman. Expliquez-nous un petit peu comment vous en êtes arrivé à écrire ce livre, à la fois sur le fond de ce livre et puis sur sa forme.
Alors pour ce qui est du fond, c'est suite à une découverte personnelle en 2018. Par hasard, j'ai pris connaissance d'un ancien culte païen et il s'avère que, par le plus grand des hasards, quelques semaines plus tard, il y a eu un événement qui a été très retransmis à la télévision. C'était l'acte 3 des Gilets jaunes, cet acte où il y avait eu des dégradations sur l'Arc de Triomphe, notamment le moulage d'un visage d'une des sculptures qui orne les piliers de l'arc avait été dégradé. Et Ce fait avait été relayé sur les ondes, et moi, en regardant les informations, je reconnais immédiatement dans ce visage et dans la sculpture auquel il appartient une certaine divinité païenne de l'Empire romain.
Ouais. Et non pas ce qu'il est censé représenter, ce haut-relief.
Voilà, absolument. C'est quelque chose qui est complètement différent, qui n'a pas sa place ici et qui est en quelque sorte anachronique, puisque l'Arc de Triomphe a été construit au début du XIXe siècle.
Oui.
Et là, on parle d'un culte païen qui s'est terminé officiellement à la fin du IVe siècle.
Alors voilà. Est-ce que vous pourriez peut-être, Victor, nous rappeler déjà succinctement, même si beaucoup le savent sur Radio Courtoisie, et ceux qui nous écoutent, ce que représente, ce que censé représenter plutôt, cet Arc de Triomphe et ce haut-relief en question.
Oui. Alors, le contexte de l'Arc de Triomphe, on est au début du XIXe siècle, et plus particulièrement dans la monarchie de Juillet. Oui. Et donc, le roi des Français, Louis-Philippe, via l'intermédiaire de son ministre Adolphe Thiers, commande une sculpture pour orner cet Arc de Triomphe.
Donc, l'Arc de Triomphe, c'est Napoléon.
Au départ, oui. Là, en fait, il s'est construit sur une certaine période. Napoléon l'a commandé en 1806.
D'accord.
Et il était fait pour célébrer les victoires de Napoléon.
Oui, mais Napoléon, c'est le fils, certains diraient sanguinaire, comme a pu le dire un certain auteur, de la Révolution. Donc, c'est le fils de la Révolution, Napoléon. Donc, c'est la Révolution, c'est la République aussi, cet Arc de Triomphe.
Oui, mais en fait, à cette période-là, à la période du roi Louis-Philippe, il y avait une certaine réunification qui était nécessaire parmi le peuple à cause de tout ce qui s'était passé juste avant. C'est-à-dire que le roi avait l'intention de célébrer la France unie pour la défense du pays, de façon à rassembler les héritiers de la Révolution, les partisans de l'Empire et les royalistes qui étaient encore attachés à l'ancienne monarchie.
Bien sûr.
Et donc, il passe cette commande au sculpteur François Rude.
Voilà. Ce fameux François Rude.
Voilà. Et François Rude décide de représenter des volontaires révolutionnaires qui, en 1792, sont partis défendre les frontières de la France contre les armées coalisées autrichiennes et prussiennes. Donc, il a appelé sa sculpture « Le départ des volontaires » de 1792.
C'est ça.
Et ce sont ces soldats qu'on est censé voir sur cette sculpture.
Donc, c'est la nation en armes, c'est ce moment de mobilisation de citoyens pour finalement lutter contre la coalition des monarchies qui voulait écraser, en tout cas c'est la légende ou le mythe républicain, cette révolution française. Donc, ils vont pour ce combat, c'est bien ça.
Oui. Maintenant, pour répondre à la deuxième partie de votre question sur la forme du livre.
Alors ça, voilà. Donc, on en est là. On va donc prolonger petit à petit et voir un peu ce qu'il en est. Parler de ces divinités, de cette divinité, enfin des divinités païennes, parce qu'on va faire un détour par un certain nombre de dieux de l'Olympe aussi, hein, et pas seulement sur un culte à mystère qui est le culte dont on va parler dans un instant, mais aussi donc sur un ensemble. On va décortiquer petit à petit ce haut-relief et cet arc de triomphe et se rendre compte que derrière ce que nos yeux vont se déciler en quelque sorte, et nous allons voir que derrière ce monument, il y a eh bien, un certain nombre de signaux en même temps que de symboles que certains initiés, que des initiés de haut rang, par exemple, de la franc-maçonnerie, pourraient faire sens. Ça pourrait faire sens pour eux, et ça, on va en reparler, et ça sera le thème principal de cette émission, chers auditeurs. Par contre, en effet, je vous laisse, Victor, développer ce livre, La remarquable découverte de l'ami Ursule, dans sa forme.
Alors, pour arriver à ce livre, j'ai fait une enquête personnelle à partir de 2018, quand j'ai découvert cette chose étrange sur l'Arc de Triomphe. Mmh. C'est une enquête qui m'a pris plusieurs années. Et une fois qu'elle a été terminée, j'ai jugé nécessaire d'en partager les conclusions. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire un livre.
Bien sûr.
Au départ, j'ai commencé à écrire ce livre.
Mais alors pourquoi un roman ?
Voilà. Au départ, ce n'était pas un roman. J'ai commencé à écrire un livre de façon très académique. Et je me suis rendu compte que ce serait plus sympathique, non seulement pour le lecteur, mais pour moi-même qui l'écrivais, de le romancer.
D'accord.
C'est-à-dire d'ajouter des personnages assez truculents, une histoire
deux
avec...
en particulier.
Oui, c'est ça. Qui sont le fameux Ursule, qui lui fait la découverte que j'ai moi-même faite.
Voilà.
Et le narrateur, qui est en fait la personne à qui Ursule présente sa découverte.
C'est ça.
Et...
Il y a une sorte de dédoublement, de deux fois dédoublement chez vous, à la fois vous et Ursule, vous et le narrateur par rapport à Ursule, c'est un jeu en miroir en quelque
oui,
sorte.
Oui, mais c'est techniquement absolument nécessaire, parce que le dialogue entre ces deux personnages est le moteur de la dialectique de ma démonstration, c'est-à-dire thèse, synthèse et antithèse, puisque Ursule décrit ce qu'il a trouvé ou
ouais.
ce qu'il pense, ses hypothèses,
ouais.
et son ami qui... n'est pas du tout, n'a pas du tout la même personnalité, qui est beaucoup plus réservé, modéré. Lui met en doute ce qui lui est présenté. Et donc, en fait, on a cet échange qui, à la fin, se finit toujours par une synthèse. Et donc, ce livre est un roman. Chaque chapitre se lit comme un roman. Mais c'est en même temps une démonstration. La démonstration d'une découverte réelle, inédite, qui, à ma connaissance, n'a jamais été révélée. Du moins, je n'en ai pas trouvé aucune trace.
Alors ça, c'est important. C'est-à-dire que ce dont on va parler, chers auditeurs, ce soir, vous ne le trouverez nulle part ailleurs que dans le livre « La remarquable découverte de l'ami Ursule », avec énormément de représentations, d'images colorées pour expliquer. Alors, étant donné que nous sommes à la radio, nous aurons un exercice qui sera plus compliqué ce soir. Il va falloir vous imaginer. C'est pour ça qu'on va décrire très précisément le haut-relief de François Rude hein, au début. Mais lorsqu'on va vraiment rentrer dans le fond du sujet. Mais finissez sur la structure même romancée.
Oui. Alors, en fait, c'est une démonstration que j'ai voulu la plus scientifique possible, mais qui est présentée comme un roman. Et pour le côté romancé, en fait, rend la lecture agréable, enfin, je l'espère, mais à la fin de chaque chapitre, j'ai extrait les informations qui ont été présentées. C'est ce que j'ai appelé ces fameux argumentum Ursuli, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque chapitre, le lecteur à un résumé de ce qui a été réellement découvert.
Exact, exact, exact. Ouais, à chaque fin de chapitre, voilà, vous résumez les différentes découvertes.
Voilà, ça permet de bien se rendre compte de ce qui a été découvert, de le détacher de la narration du récit.
Voilà, alors la narration du récit, expliquez-nous un peu ces deux personnages, Ursule et le narrateur, qui sont-ils ?
Alors, ce sont deux vieux amis qui, en fait, sont maintenant à la retraite. Et ils passent leur retraite dans leur campagne natale, au fin fond du Bourbonnais. Ils habitent non loin l'un de l'autre. Ils sont tous les deux, l'un est célibataire, l'autre est veuf. Et ils sont en quelque sorte, ils ont que l'un pour l'autre en quelque sorte. Mais ils ont cependant des personnalités très différentes. Ursule, qui fait la découverte sur l'Arc de Triomphe, est un personnage qu'on pourrait qualifier de dionysiaque, c'est-à-dire qui est plutôt excessif, qui est assez chaotique en même temps.
Et la divinité Dionysos, bien sûr, que l'on retrouve co-président d'Elphes avec Apollon. Donc il est, j'imagine, une personnalité plus apollinienne, le narrateur, c'est ça ?
Absolument. Le narrateur, lui, est quelqu'un de plus modéré, de plus tempéré, oui. Quelqu'un qui aime l'ordre. Alors qu'Ursule, lui, est très chaotique. Quand il vient rendre visite à son ami, c'est en coup de vent, un coup il est là, un coup il ne l'est plus. Les choses vont très vite dans son esprit, il est difficile à suivre. Par contre, en revanche, il est très créateur. Il a cette qualité de pouvoir créer ou de pouvoir déceler, de pouvoir penser d'une façon un peu différente et de voir ce qui échappe aux autres.
Très bien, donc finalement, on va assister à cette découverte au fil de la découverte, c'est-à-dire il n'a pas tout découvert d'un coup, Ursule, il le découvre petit à petit va le développer, et le narrateur va se piquer ou prendre au jeu. Autant il est plutôt sur la retenue, il doute énormément de son ami à l'origine, parce qu'il le connaît de longue date, et puis petit à petit, il se prend au jeu, et lui aussi fera des découvertes qui vont nourrir la découverte finale dont on vous parlera peut-être, on va voir si on vous dit tout ou s'il vous faut, quoi qu'il arrive, acheter le livre pour savoir le fond de l'affaire. C'est bien ça.
C'est bien ça. Je pourrais rajouter quelque
Allez,
chose
je vous en prie.
Là-dessus, c'est que, en fait, Ursule, lui, dès le début du livre, est persuadé de sa découverte. Il pense avoir découvert quelque chose et il en est certain. On pourrait rapprocher ça à un concept qui a été apporté par Platon dans la République. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette analogie de la ligne divisée. C'est une analogie où Platon présente les différentes formes de connaissance.
Oui.
Et la connaissance la plus importante pour lui, c'est celle qu'il appelle noésis. C'est une connaissance qui
Noésis, oui.
Oui, qui est très instinctive, qui en fait est au-dessus du logos, au-dessus de ce qu'il appelle Dianoia, et qui est en fait le raisonnement discursif.
Oui,
donc en fait, au début du livre, Ursule a une sorte de révélation. C'est de ce niveau-là. Alors, une révélation, c'est très bien pour lui, il en est persuadé, il peut agir en conséquent. Par contre, c'est limité dans le sens où on ne peut pas communiquer une révélation. Et pour faire cela, il faut en fait descendre au niveau de connaissance au-dessous, qui est Dianoia, c'est-à-dire le raisonnement discursif.
Oui.
Et le livre est ce discours, ce dialogue entre les deux personnages qui force Ursule dans ses retranchements pour prouver à son ami qu'il a raison.
Oui, tout à fait. Oui, qui est avec un caractère assez, assez bien trempé. Et on retrouve ces... Alors, on est au fin fond de la France profonde. Hein,
Oui, nous sommes dans le Bourbonnais.
Dans le Bourbonnais.
Ce sont des gens de la terre. Des gens qui... Ursule notamment. Et c'est donc quelqu'un qui a un bon sens paysan en même temps, qui est très important parce que il n'a pas cette sophisticité ou sophistication qu'a l'autre personnage. Et c'est en fait un avantage pour lui parce que c'est ce bon sens qui lui permet de ne pas tomber dans les pièges qui sont en fait posés sur la sculpture pour que les profanes ne voient pas le message ésotérique.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc on va les suivre et bien petit à petit faire ces découvertes, Ursule et le narrateur, vivre leur vie aussi, c'est-à-dire que c'est toujours ponctué entre autres d'excellents repas, ce sont des amis, des vrais amis. Ils ont beaucoup d'échanges et petit à petit, eh bien, ils vont aller vers eux. Ce qui se révélera finalement dans ce livre une sorte d'initiation. Mais on ne va pas anticiper. Très bien, Victor. Donc, je rappelle, chers auditeurs, le livre de Victor Baugé, Les Chroniques de LRDS, ça, c'est la maison d'édition, en fait.
C'est la marque d'édition.
Oui, c'est la marque d'édition.
Parce que c'est auto-édité.
Ouais, c'est une auto-édition.
C'est disponible sur Amazon.
Disponible sur Amazon et disponible aussi sur votre site. Dites-nous-en un peu plus sur votre site, Victor.
Oui, le site est victorbaugé.com.
Alors, Baugé, B-O-G-E-Y, Victor. Donc, c'est victorbaugé.com. En un seul mot.
Et à partir de là...
.com. Très bien.
Les
donc, vous tapez victorbaugé.com. Vous pouvez donc récupérer ce livre sur Amazon, mais c'est mieux encore de le récupérer sur le site. Et d'ailleurs, je vous conseille quand même vivement le site, parce que... Et d'ailleurs, si certains d'entre vous suivez cette émission... Moi, je vous conseille même d'aller directement actuellement, tout en nous écoutant, sur le site de Victor Bauger, parce que vous allez avoir tout un tas d'images de ce dont nous allons parler ce soir. Hein.
Beaucoup plus que ça, puisqu'en fait, il y a des liens vers ma propre chaîne YouTube, oui. Où j'explique certaines des révélations.
Voilà. Voilà, donc il tient énormément, l'auteur, justement, à ce que ce savoir, sur ce savoir ésotérique, finalement, sur l'Arc de Triomphe, puisse être révélé au plus grand nombre, car indéniablement, ce livre, chers auditeurs, je vous le dis, et je ne plaisante pas et je ne joue pas avec vous en disant cela, c'est une véritable révélation, la remarquable découverte de l'ami Ursule Victor Bauger. Alors, Victor... Allons peut-être dès à présent un petit peu maintenant dans le... On va petit à petit développer, approfondir cette révélation, cette découverte qui est la vôtre, qui est celle d'Ursule et de son ami le narrateur aussi, dans le livre. Revenons-en peut-être à ce haut-relief. Qu'est-ce qu'il est censé officiellement représenter? Faites-nous un petit descriptif pour ceux qui ne le connaîtraient pas, sachant que la figure principale de la victoire, en quelque sorte...
Oui, c'est une figure qui, en fait...
Est très connue.
Elle enjoint une troupe de soldats, voilà. Qui est juste au-dessous d'elle, à partir au combat.
C'est ça. Et elle est donc sur l'un des piliers, si j'ose dire, de l'Arc de Triomphe.
Voilà, si vous regardez l'Arc de Triomphe en venant des Champs-Élysées.
D'accord.
C'est la sculpture monumentale qui est sur le pied droit.
C'est ça.
Qui est à droite.
Voilà. Quand vous avez la Concorde dans le dos, vous regardez l'Arc de Triomphe et sur le pilier droit, vous avez ce haut-relief magnifique qui représente en effet une sorte de divinité ailée.
Oui, une allégorie de la victoire.
C'est une allégorie de la victoire. De quelle victoire? De la victoire qui va être la victoire du peuple, des citoyens et de la Révolution, donc. Par rapport aux forces coalisées des monarchies européennes.
C'est ça, c'est l'interprétation qu'on nous demande de voir.
Oui, c'est ce qu'on nous demande de voir.
Et on nous le demande avec insistance, parce que cette sculpture a plusieurs noms, ce qui est déjà étrange en soi.
Donnez-nous les différents noms.
Alors, le nom officiel, c'est le départ des volontaires de 1792.
Très bien.
Donc, ces soldats qui étaient venus à Paris se rassembler pour partir vers les frontières nord-est du pays... battre les armées coalisées étrangères.
C'est ça.
L'autre nom, c'est le surnom, c'est la Marseillaise.
Ah, voilà, c'est la Marseillaise. Autre nom pour une même sculpture. Alors la Marseillaise, pourquoi?
Parce que ces volontaires qui sont venus à Paris répondant à l'appel de l'Assemblée législative pour défendre la patrie en danger sont venus de partout en France, mais notamment, il y avait parmi eux les fédérés marseillais, qui, fameusement, sont montés à Paris en chantant le chant de guerre pour l'armée du Rhin, composé par Rouget de Lille, et qui est connu maintenant sous le nom de la Marseillaise. Ça fait donc deux noms déjà pour une même œuvre.
Mais alors il y en a même... ça c'est pour le moins surprenant.
Et il y en a un troisième, le chant du départ. C'est-à-dire...
Donc, d'accord.
C'est-à-dire que le contexte ou la façon de voir cette œuvre sur la Révolution, sur le départ de ces volontaires, c'est quelque chose qui nous est... assez fortement demandé.
Finalement, elles font toute référence à cette divinité ailée avec son épée, hein, en quelque sorte, puisque c'est à la fois une divinité qui crie, donc ça peut être un cri de guerre, un cri de victoire aussi.
Ou de ralliement, oui.
Ou de ralliement, ou un chant. Donc le côté chant aussi, le chant justement des volontaires. Donc c'est parce que c'est le personnage central. C'est cette partie-là d'ailleurs qui est représentée à l'intérieur de l'Arc de Triomphe, c'est ça dans la crypte?
Oui, c'est le visage de cette figure qui avait été moulée.
Oui.
Et c'est ce moulage qui avait été défiguré.
Dégradé par la manifestation des gilets jaunes. D'accord, et c'est... Voilà. Très bien. Et... Alors, est-ce que vous avez encore des choses à dire sur l'aspect officiel,
oui.
Avant d'aller au-delà?
On pourrait décrire donc cette sculpture un peu plus précisément.
Oui.
Il y a 8 personnages au niveau bas de cette sculpture, et surmontés par cette figure ailée qui représente manifestement une victoire et qui les enjoint à prendre la route. Alors, à partir de là... il y a une chose qui est étrange, mm-hmm. et c'est ce qui met l'ami Ursule sur la piste. Parce qu'en fait, sa découverte à lui n'est pas la même que moi. Et je pense que sa découverte est en fait celle que François Rude voulait, ou la, il voulait que ce soit de cette façon-là que les sens cachés de sa sculpture soient découverts.
Ouais.
C'est-à-dire que pour Ursule, tout commence par la détection de trois anomalies dans cette sculpture. La première, c'est qu'il remarque que bien qu'on lui, entre guillemets, on lui vende des volontaires révolutionnaires, ouais. il n'y a pas un seul volontaire révolutionnaire sculpté.
De l'époque.
Non, ce ne sont pas des soldats du XVIIIe siècle, ce sont en fait des soldats vêtus à l'antique.
À l'antique.
Donc on en a en armure, certains en sandales, certains à moitié nus. Donc il y a...
Et alors ça, Ursule le dit, mais votre narrateur dit oui, mais bon, à cette époque, au XVIIIe siècle, c'est classique de dépeindre un certain nombre de personnes du siècle comme des personnages de l'Antiquité, parce qu'il y a une correspondance entre le siècle des Lumières et puis les siècles antiques.
Oui, et c'était tout à fait en accord avec le style romantique de l'époque.
En plus.
Mais ça, c'est seulement la première anomalie.
D'accord.
La deuxième anomalie que perçoit Ursule, c'est qu'il remarque que si l'on prend en considération l'orientation de l'Arc de Triomphe lui-même ouais. et la direction du mouvement de cette troupe sur ouais. la sculpture, qui très manifestement va sur la gauche, puisque la figure ailée pointe son glaive dans cette direction, eh bien, on remarque que cette troupe ouais. prend la direction de l'avenue Kléber, qui, elle, part en direction sud-ouest.
Ah, donc complètement à l'opposé du nord-est.
Alors Ursule dit...
On ne peut pas faire plus à l'opposé.
On me vend des volontaires partant défendre les frontières nord-est, et je vois non pas des révolutionnaires, mais des soldats vêtus à l'antique qui fuient dans la direction opposée.
Ouais.
Il y a donc une incohérence.
Une deuxième incohérence.
Et la troisième incohérence, ouais. c'est qu'il remarque justement le visage de cette figure ailée qui crie. Alors, c'est une incohérence parce qu'à l'époque... les figures allégoriques, notamment celle de la victoire, devaient être représentées avec une certaine expression de calme, de sérénité et de beauté. Et ce n'est pas du tout le cas de cette sculpture-là. Elle a un visage extrêmement crispé et tendu, les sourcils froncés. Et d'ailleurs, Ursule n'est pas le seul à remarquer cette incohérence. Un sculpteur contemporain de François Rude, qui s'appelle David Danger, avait fustigé cette figure. Il disait que c'était hideux oui. et que ça n'avait pas sa place. Et donc, Ursule commence à réfléchir à tout cela.
Voilà, donc il y a ces trois anomalies. Alors que vous, quand on va aller un petit peu plus loin sur Ursule, et puis après on reviendra sur vous, et qu'est-ce qui vous a marqué, vous, ces visages, qui vous a fait penser à une divinité antique, dont on va dire, on va parler évidemment, mais par la suite seulement, chers auditeurs, il va falloir nous suivre pas à pas. Vous pouvez continuer. Donc vous avez oui. ces trois anomalies, et donc il en déduit quoi, Ursule ?
Eh ben, c'est justement qu'il remarque autre chose. Il remarque que cette figure ailée, qui est censée être une allégorie de la victoire, et comme chacun le sait, les allégories de la victoire sont basées sur la déesse grecque Niké. Et c'est très codifié, une allégorie de la victoire. Il y en a beaucoup, notamment sur les monuments aux morts. C'est une figure féminine, ailée, avec une expression calme, et qui tient, en général, une couronne, souvent une couronne de laurier. Et en effet, sur la sculpture de l'Arc de Triomphe, nous avons une figure ailée qui ne tient pas une couronne, mais il y a une couronne civique juste au-dessous de sa main.
Oui.
Et donc, on est bien dans ce contexte. Mais ce n'est pas tout. Elle a d'autres attributs. Et Ursule remarque que sur sa poitrine, il y a un petit visage.
Ouais.
Et en regardant de près, on voit que ce n'est pas n'importe quel visage. C'est un visage avec deux petites ailes au-dessus mmh. et des serpents autour.
Mmh.
C'est en fait ce qu'on
Méduse.
Appelle... Voilà, c'est un gorgonéon.
La gorgone.
Alors, dans la mythologie grecque...
La seule de ces divinités monstrueuses, pardon, mortelles, à qui, justement, Persée tranchera la tête.
Voilà. Et quand Persée... après avoir tranché la tête de cette méduse, il la donne à Athéna, qui l'avait aidée à la combattre. Et donc Athéna porte ce gorgonéon, cette tête, sur son égide, qui est une sorte d'arme miraculeuse, aussi bien défensive qu'offensive. Et c'est cette égide qu'on voit sur la figure ailée de l'Arc de Triomphe. Et donc c'est une référence, cette fois, à Athéna.
Alors, ce qui peut relier hein, Athéna et Athéna Niké, c'est une épiclèse d'Athéna, hein, c'est-à-dire que c'est une représentation d'Athéna en victoire, en tant que victoire, puisqu'elle est déesse de la guerre, hein, la déesse d'Athènes. Et là, l'associer à la victoire est quelque chose qui est classique à l'âge antique.
C'est classique, mais ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des représentations d'Athéna qu'on appelle Athéna Nicéphore. Oui. C'est-à-dire qu'elle tient dans sa main une petite version oui. de Nicée. Mais d'inclure le Gorgonéon sur une victoire, ça ne se fait pas.
Ça ne se fait pas.
Et il y a autre chose qui est étrange sur cette figure ailée sur l'Arc de Triomphe, c'est qu'en plus, sur les chaque côté de son bonnet, il y a des chevaux. Et ça, c'est quelque chose qui est très rarement vu, et c'est jamais vu sur les victoires.
Ouais.
En revanche, il y a certaines statues qui représentent Athéna, où on retrouve ses chevaux, notamment Athéna Farnèse et l'Athéna du Gorgonéon,
ouais.
qui est en fait une version romaine de l'Athéna Parthénos.
Très bien.
Et donc, nous avons deux indices, le Gorgonéon et les chevaux, qui pointent indubitablement vers Athéna. Nous voyons donc que nous avons une autre interprétation possible de cette figure ailée.
Oui, qui n'est donc ni la Marseillaise, ni cette victoire qui incite les volontaires à aller se battre.
Oui, parce que vous avez raison. En plus de cette victoire, il y a une deuxième façon de la lire. C'est la patrie, c'est-à-dire dans le contexte de la Révolution. Et cette version-là est appuyée par son bonnet, qui est un bonnet phrygien. C'est aussi conforté par le fait que près d'elle, il y a les initiales RF. Et il y a aussi non loin un coq, qui représente le symbole du pays.
Oui.
Donc, en plus de ces deux interprétations, la victoire et la patrie, nous venons de découvrir une interprétation, celle d'Athéna.
Celle d'Athéna, voilà. Et on va pouvoir poursuivre Athéna, mais j'aimerais peut-être, c'est peut-être le moment de quitter un instant Ursule et son ami narrateur. Je rappelle le livre de Victor Bauger, La remarquable découverte de l'ami Ursule, une auto-édition que vous pouvez retrouver à la fois sur Amazon et sur le site de Victor Bauger, donc Victor Bauger, B-O-G-E-Y. Et vous écrivez Victor Bauger sur en un seul mot, .com, c'est ça ?
C'est ça.
.com sur un moteur de recherche et vous arriverez sur son site. J'aimerais que l'on revienne parce que vous avez débuté puis vous êtes coupé à ce moment-là sur ce que vous a inspiré vous et votre inspiration qui n'est pas celle, puisque vous avez évidemment romancé votre propre découverte, lorsqu'il y a cette dégradation liée aux manifestations des Gilets jaunes. Eh bien, vous voyez dans cette figure ailée une divinité païenne. Expliquez-nous, dites-nous un petit peu, Victor.
Oh ben, c'est simplement parce que, par un concours de circonstances assez extraordinaires, quelques jours avant, j'avais pris connaissance de ce culte de Mithra.
Alors, le culte de Mithra, qu'on ne l'a pas dit encore. C'est Mithra, voilà.
Qui est un culte à mystère, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et je m'étais intéressé un petit peu, simplement par curiosité. Et en regardant ce reportage sur l'Arc de Triomphe, j'ai reconnu la figure caractéristique de cette divinité en la victoire sur la Marseillaise.
Rappelez-nous d'ailleurs pourquoi vous avez été frappé en voyant donc cette dégradation et vous dites « Mais ça, bon sang de bonsoir, qu'est-ce que vient faire Mithra sur l'Arc de Triomphe ?» Donc expliquez-nous un petit peu comment vous en êtes arrivé là. Expliquez-nous peut-être un petit peu de votre vie passée, dans ce cas-là, de votre métier, afin de voir pourquoi est-ce que vous étiez intéressé à Mithra. Pourquoi ?
Alors,
peu de temps avant.
Oui.
C'est ça.
Et c'est par hasard, en fait, que j'ai pris connaissance de ce culte, parce qu'à l'époque, je travaillais dans une salle de marché à Londres, et j'avais besoin de faire une recherche sur la Banque d'Angleterre, donc la Banque centrale du Royaume-Uni. Et j'avais appris que l'emplacement initial de la Banque d'Angleterre, sous cet emplacement, après la Deuxième Guerre mondiale, on avait découvert les ruines d'un temple à Mithra, ce qu'on appelle un Mithraeum. C'est le Mithraeum de Londres qui se visite en ce moment. et qui, en ce moment même, est située dans le sous-sol du quartier général de Bloomberg.
De Bloomberg.
Dans le quartier qu'on appelle Wallbrook, dans la City.
D'accord. Alors, parlez-nous un petit peu de Mitra, du culte de Mitra. De ce que l'on en sait, puisque c'est un culte à mystère, donc on n'en sait que peu de choses.
Oui. Alors, d'abord, je vais situer les cultes à mystère dans l'Empire romain. Parce que quand on parle de l'Empire romain, on pense souvent, en termes de religion, à cette religion polythéiste dominée par Zeus,
Mars... Oui, l'aspect
Mars.
Public, voilà, l'équivalent des Olympiens grecs.
Oui.
Voilà.
Mais ce n'est que la religion officielle.
Exactement.
C'est-à-dire que dans cet immense empire... Les Romains toléraient des cultes indépendants.
C'est ça.
Et évidemment, tout le monde sait qu'il y avait le judaïsme déjà à l'époque, et un petit peu plus tard le christianisme. Mais en marge de tous ces cultes-là, il y avait une catégorie qu'on appelle les cultes ou bien religions à mystère.
Donc c'était des cultes avec des initiations, c'est ça.
Exactement.
Et qui étaient réservés donc à des initiés.
Oui, c'était des cultes qui étaient en fait complètement fermés, contrairement à d'autres religions. C'est-à-dire qu'on entrait seulement par invitation.
C'est ça. Et, un parrainage, et on était initié à des mystères.
Exactement, c'est-à-dire qu'au fil de différentes initiations, on gravissait des échelons.
C'est ça.
Il y avait dans ce culte-là...
Ça fait penser un peu à la franc-maçonnerie, même beaucoup.
Absolument. Et, et à chaque initiation, il était révélé certains secrets au myste, c'est-à-dire à l'adepte.
C'est ça.
Et ce sont ces secrets qu'on appelle les mystères.
C'est ça.
D'où les cultes à mystères.
C'est ça.
Eh bien, le culte de Mitra était l'un de ces cultes à mystères, parmi d'autres.
Très bien. Et bien ça, on va y revenir sur ce culte éventuellement et sur la fin, jusqu'à la fin de cette émission de radio, chers auditeurs. Mais Mitra, il y a quand même, pour ceux qui s'intéressent même de loin à Mitra, il y a la fameuse torectonie. Il y a une représentation spécifique de Mitra avec son bonnet phrygien. Divinité dont on sait qu'elle est romaine, mais qu'elle avait certainement une antériorité orientale, peut-être
perse.
Et donc, qu'est-ce qui est, dites-nous un petit peu pour ceux qui ne le sauraient pas, la représentation la plus classique justement de Mitra.
Oui, alors c'est cette torectonie dont vous venez de parler, et c'est la pièce centrale de sa mythologie, c'est-à-dire c'est une représentation du dieu sous la forme d'un jeune homme qui sacrifie un taureau, le taureau originel. Alors c'est une représentation qui est assez compliquée et très codifiée. Et elle est étonnamment constante d'un mitraum à l'autre.
D'accord.
Parce qu'en fait, cette représentation était située dans tous les mitraums, qu'elles soient sculptées ou peintes sous forme de fresques. Il y avait toujours au fond du temple cette représentation-là. Et donc on voyait le dieu sacrifiant ce taureau.
Donc avec le glaive,
avec un glaive,
plantant donc dans la gorge du taureau,
dans
c'est
le
ça
cou, tout à fait,
dans le cou du taureau.
De chaque côté de la scène, il y avait deux personnages portant eux aussi des bonnets phrygiens. Ils portaient des torches surtout, c'est ce qu'on appelle les dadophores, les porteurs de torches.
L'homme, on peut imaginer qu'ils accompagnaient le myste dans une zone obscure, puisque c'est sous cette représentation, cette torectonie, normalement, elle est censée avoir lieu dans une grotte, donc sombre.
Oui.
Comme une descente aux enfers, une catabasis.
Mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, l'un des dadophores, qui s'appelle Kaotès ou Kotès, tient sa torche pointée vers le haut.
Oui, catabasis, anabasis. Il y a ces deux mouvements, je dirais, de descente et de remontée.
Voilà. Alors, il y a plusieurs interprétations. Certains historiens disent qu'en fait...
C'est mon interprétation, il y en a certainement d'autres, en effet.
Parmi les deux interprétations qui reviennent souvent, c'est qu'il s'agit d'une représentation peut-être de la naissance ou de la mort, ou du printemps et de l'automne, du commencement ou de la fin. Et... Une autre interprétation, ce serait celle de la métempsychose, c'est-à-dire que la torche pointée vers le bas représenterait l'âme qui vient s'incarner sur Terre, alors que l'autre torche représenterait son départ.
C'est ça. Donc la métempsychose, oui, tout à fait.
C'est donc une nous autre... avons...
Et là, on ne peut que spéculer, conjecturer, puisque justement, c'est un culte à mystère, donc on ne sait pas en fait ce qui était enseigné.
On ne sait pas parce que tout ce qui se passait dans les temples devait rester secret. Les adeptes avaient l'interdiction de révéler quoi que ce soit. Mais de plus, la tradition mitriaque était orale uniquement. Donc en fait, on n'a pas d'écrit. Et les historiens doivent se baser sur les artefacts, et les sculptures, les, petites inscriptions pour essayer de reconstituer ce culte.
Ouais.
Mais on en connaît très peu de choses.
On en connaît très peu de choses. Donc, décrivez-nous un petit peu Mithra, justement. Donc, il égorge ou il tue ce taureau primordial et il tourne la tête en sens inverse, c'est ça?
Oui, et sur,
de
toutes
l'acte.
Sur toutes les tauroctonies, il est représenté de cette façon-là. Il chevauche ce taureau, il tourne la tête vers l'arrière.
Et il semble regarder le soleil, d'ailleurs.
Oui.
Qui est derrière. Il y a le soleil qui est derrière, c'est à noter. Ce qui est important, puisqu'en fait, c'est de Mithra que vient le fameux Sol Invictus.
Oui.
Le soleil vainqueur.
C'est très lié. Et d'ailleurs, il y a certaines dédications.
Par ce signe, tu vaincras, on peut se demander si c'était une croix ou si c'était le signe de Mithra, finalement, hein, pour l'empereur Constantin. On peut se poser la question, non?
Tout à fait, mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire.
Et moi, ce que je veux, c'est que vous nous décriviez, parce que malheureusement, c'est une émission de radio et pas une émission télé, donc que vous nous décriviez précisément la posture de Mithra lors de cette tauroctonie, parce que ça va aider pour comprendre que vous y avez vu Mithra dans cette figure qui crie, cette figure de la victoire, cette figure de la Marseillaise.
Voilà, il y a un très grand nombre de ressemblances entre Mithra sur la tauroctonie et la victoire sur l'arc de triomphe.
C'est ça.
Alors, la première, c'est que tous les deux portent un bonnet phrygien.
Voilà.
La deuxième, c'est qu'ils tournent la tête vers l'arrière.
C'est ça.
La troisième, c'est qu'ils ont leur corps penché en avant. Et la quatrième, c'est qu'ils chevauchent un animal qu'ils sont en train de sacrifier. Alors, Mithra sacrifie le taureau, mais sur la tauroctonie, il y a une tête de cheval à l'endroit où, sur la tauroctonie, on trouverait le taureau.
Oui. Et puis il y a ce glaive.
Il y a le glaive, et puis il y a la position des jambes, puisque cette position est très particulière. Une jambe est tendue et l'autre est pliée.
C'est ça.
Et on retrouve exactement cette posture sur la Marseillaise de François Rude.
Ouais.
Alors c'est étonnant en soi, mais on pourrait se dire, bien, peut-être que François Rude a aimé cette attitude et a voulu la retranscrire dans son personnage, sur sa sculpture de la Marseillaise. Mais alors, comment expliquer que ces deux dados forts que l'on trouve sur la tauroctonie ont un équivalent chacun sur la sculpture de François Rude? Parce que si l'on regarde cette sculpture, on remarque que de chaque côté, il y a aussi deux personnages qui portent des casques qui ont une forme phrygienne, c'est-à-dire des casques thraces, ça vient de la même région de l'Asie. Et de plus, l'un porte son épée pointée vers le bas et l'autre tient une lance pointée vers le haut. Autre ressemblance, l'un d'eux se tient debout avec les jambes croisées, qui est une attitude extraordinaire qu'on retrouve chez les dados forts.
On part au combat aux frontières nord-est de la France et on croise les jambes. C'est quand même pour le moins surprenant.
Alors nous avons donc Mithra et les deux dados forts.
Ouais.
Mais évidemment, si François Rude a voulu représenter une tauroctonie, il manque un élément essentiel, le taureau. Et il n'y a pas de taureau sur la Marseillaise.
Non.
Sauf que il y a un bouclier rond en bas de cette sculpture.
Ouais. Donc du haut relief, là, hein, de François Rude sur l'Arc de Triomphe.
Auquel est accolé un arc qu'un personnage est en train de bander. Et si on assemble ce bouclier rond avec l'arc qui le touche tout juste, cela reconstitue très précisément le signe astrologique du taureau qui est couché sur le flanc. Nous avons donc ce sacrifice du taureau qui est représenté, mais de façon suggérée, très ésotérique.
C'est ça.
Et les similarités vont encore bien plus loin, puisque dans la scène de la tauroctonie, il y a toute une série d'autres animaux, tels qu'un lion, un scorpion, un serpent, un corbeau.
Il y a les 12 signes astrologiques, en fait, c'est ça?
Alors, il y a les 12 signes du zodiaque, mais les animaux dont je viens... Mais en plus de cela, il y a 4 autres constellations qui ne sont pas dans le zodiaque. Donc au total, on a 16 constellations.
Quelles sont les 4 autres?
Alors, il y a le corbeau,
oui.
Corvus, il y a la coupe, il y a
le serpentaire,
l'hydre, tout à fait, et le quatrième m'échappe pour l'instant.
C'est pas grave, Victor. Écoutez, le temps que vous repreniez vos esprits et que les auditeurs aussi soufflent 30 secondes, je vous conseille, chers auditeurs, d'aller tout de suite voir le site de Victor Baugé. Victor Baugé, en un seul mot, et Baugé, enfin, c'est pas en un seul mot le livre, mais sur le site internet, Baugey, vous allez .com, vous allez sur Google et vous regardez. Et là, vous allez voir, il y a toutes les images, tout ce dont on est en train de vous parler, c'est dessus. Donc dépêchez-vous si vous voulez. Et puis ceux qui n'y vont pas, et bien, qui veulent écouter, vous écoutez. Et puis après, vous procurerez le livre et puis vous irez aussi surfer sur Internet. Voilà la remarquable découverte de l'ami Ursule Victor Baugé. On fait donc cette très courte pause et on revient juste après.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes en direct dans ce libre journal de la Résistance française avec Victor Baugé, mon invité et son auteur du livre « La remarquable découverte de l'ami Ursule » en auto-édition que vous pouvez vous procurer sur Amazon comme d'ailleurs sur le site de Victor Baugé, Victor Baugé, BOGY.com. Victor Baugé, eh bien, vit à Londres depuis l'an 2000, ça fait un moment, en 2018, alors qu'il regarde un reportage sur une manifestation des Gilets jaunes. Un détail architectural de l'Arc de Triomphe pique son intérêt et devient le point de départ d'une véritable enquête personnelle. Au fil de ses recherches, il met au jour un enchaînement de références ésotériques insoupçonnées qui le conduira à une révélation étourdissante. De cette exploration naît son premier roman, La remarquable découverte de l'ami Ursule. Dans ce récit, des personnages hauts en couleur, issus de la campagne du centre de la France, s'emparent, sous couvert de fiction, des véritables découvertes de l'auteur pour mieux les révéler au public. Et bien justement, cette révélation, elle a lieu ce soir dans les studios de Radio Courtoisie, dans ce libre journal de la Résistance française. Alors, nous en étions à la figure de ce, donc dans ce haut relief que vous retrouvez sur le pilier droit lorsque vous avez dans le dos la Concorde et que vous regardez l'Arc de Triomphe, bien connu, que tout le monde a à l'esprit. Moi, par exemple, avant même de lire le livre, j'avais tout de suite l'image, justement, parce que tout le monde l'a vu, hein, cette représentation de la Marseillaise de la Victoire qui semble haranguer, tout en regardant en sens inverse, un certain nombre des troupes pour aller au combat, des volontaires pour le combat, justement, contre les forces coalisées européenne pour sauver la Révolution française. C'est évidemment eh bien, une représentation de la Révolution et de la République. Et c'est une ode, et c'est un auteur, celui qui en est le sculpteur, hein, en quelque sorte, l'artiste, eh bien, François Rude, est donc le créateur de cette œuvre. Peut-être continuer à développer Victor, maintenant les différents niveaux de lecture, puisque eh bien, on en était à Mithra, la figure de Mithra, cette figure orientale et en même temps des cultes à mystère romain, de la tauroctonie, du sacrifice du taureau primordial. Je vous laisse continuer un petit peu à développer, si vous le voulez bien, Victor, ces différents niveaux de lecture.
Quand on regarde cette sculpture, on peut deviner ce que François Rude avait à l'esprit, c'est-à-dire de quelle façon il voulait que l'observateur, quelle démarche il devait faire pour arriver au thème le plus profond de la sculpture. Parce que des niveaux de lecture, il y en a beaucoup. J'en ai personnellement compté 13. C'est-à-dire que si on considère des niveaux de lecture comme ceux qu'on a décrits au tout début, c'est-à-dire des soldats de l'Antiquité qui partent au combat, ça fait un niveau de lecture. Le deuxième, c'est le contexte de la Révolution, ces révolutionnaires qui partent défendre la patrie en danger, c'est le deuxième niveau de lecture, mais ce sont des niveaux de lecture exotériques, c'est-à-dire il y en a deux déjà au lieu d'un, parce que c'est une sculpture qui est de nature allégorique, c'est pour ça qu'on en a déjà deux. Mais en plus de ces deux niveaux, j'ai découvert, et je le démontre dans mon livre, 11 niveaux de lecture.
11 autres niveaux de lecture.
Qui sont ésotériques, c'est-à-dire qui sont cachés, c'est-à-dire qui demandent beaucoup d'efforts pour les trouver. Alors, jusqu'à présent, nous avons vu la déesse Athéna.
Oui.
Alors, à quoi est-ce que ça nous mène?
Oui.
Nous avons parlé aussi de cette troisième anomalie qu'Ursule avait révélée, le cri de cette sculpture. Maintenant que nous avons identifié cette figure à Athéna, le cri commence à prendre sens. Parce que dans la mythologie grecque, la naissance d'Athéna est très particulière. Et le poète Pindare raconte que quand Athéna est née, on sait qu'elle est née, enfin, il est dit qu'elle est née adulte et vêtue de son armure, mais surtout qu'elle cria.
Et qu'elle danse.
Qu'elle poussa un cri terrible qui ébranla le ciel et la terre.
Donc, on imagine Héphaïstos avec sa hache fendre le crâne du malheureux Zeus en deux et permettre ainsi cette espèce d'accouchement par le haut. Hein.
C'est ça.
Annick de Souzenel disait de la fontanelle qui était encore ouverte chez le nouveau-né avant de se refermer petit à petit, qu'elle était une sorte de matrice, d'ouverture d'une matrice, mais la matrice de la tête, hein, la matrice du crâne, la matrice de vers le haut, un accouchement vers le haut en quelque sorte.
Exactement. Dans la mythologie grecque, il est raconté qu'Athéna s'extrait de la tête de Zeus qui vient d'être ouverte par Héphaïstos, tout à fait, et en poussant ce cri. Et donc là, on peut se dire, cette Athéna qui pousse un cri, eh bien peut-être que François Rude veut que l'on voit une référence à la naissance d'Athéna. Et donc, l'initié qui se doute qu'il y a des choses à découvrir va commencer à chercher dans ce contexte-là. Et c'est alors qu'on peut se tourner vers certaines représentations de la naissance d'Athéna, parce que les Grecs l'ont représentée, notamment au VIe siècle avant Jésus-Christ, sur des vases et des amphores. C'est une scène qui est assez classique, en fait. Et typiquement, on voit Athéna, qui est en hauteur, au-dessus de Zeus, qui s'extrait donc de son père. Souvent, même toujours, il y a une de ses jambes qui est encore empêtré dans la matière grise paternelle. Et à côté, de chaque côté de Zeus, on voit une représentation d'Elithie, qui est la déesse de l'enfantement, et qui est représentée en double, comme des sœurs jumelles. Il y en a une de chaque côté. Si je rappelle la représentation de la naissance d'Athéna, qui est gardée au Louvre,
oui.
Eh bien, cette représentation particulière nous montre de chaque côté des déesses de l'enfantement, Elithie, d'un côté Héphaïstos avec sa hache,
oui.
Et de l'autre côté Poséidon,
qui est un des frères de Zeus.
Oui, l'autre étant Hadès. Et ce qui est étonnant, c'est que si maintenant on tourne notre regard vers la sculpture de François,
oui.
Rude, et qu'on regarde au-dessous de la victoire,
oui, de la victoire,
qu'on a maintenant identifiée à Athéna, on trouve un grand guerrier, beaucoup plus grand que les autres, qui a une attitude...
Un colosse, un véritable colosse, tout à fait.
Qui a une attitude dominatrice, et
oui.
Évidemment le chef de la troupe.
Oui.
Et qui ressemble, par sa physionomie, à Zeus.
Et oui.
Les nombreuses sculptures...
Alors tout ça, c'est montré, démontré, excusez-moi Victor, c'est pour que l'auditeur, qui d'ailleurs ne pose pas de questions, il doit être totalement envoûté par le sujet, donc il ne pose pas de questions, vous pouvez quand même poser des questions, mais dépêchez-vous, pas trop tard, chers auditeurs. Mais voilà, tout ça, vous avez des dans le livre, hein, La remarquable découverte de l'ami Ursule Victor Baugé, hein, auto-édition, vous avez cette représentation, vous avez toutes ces images, hein, qui sont parfaitement colorées et qui permettent de comprendre un petit peu ce qui est dit, hein, bien évidemment.
Oui, parce que la démonstration est extrêmement visuelle. C'est pour ça qu'il y a plus de 40 illustrations dans le livre.
C'est ça.
Et donc, ce grand guerrier, il ressemble à Zeus par sa physionomie. C'est très épais, sa barbe, sa chevelure, sa moustache, c'est évidemment Zeus. D'autant plus qu'il ressemble à Zeus par sa posture. C'est-à-dire qu'il rappelle très fortement les représentations de Zeus brandissant son foudre, ce faisceau d'éclairs.
Bien sûr.
Mais ce n'est pas tout. En plus de cela, sur son bouclier sont ciselées des feuilles de chêne et des glands. Et on sait que le chêne est l'arbre sacré de Zeus.
Absolument.
Quatrième indice, parce qu'il y en a quatre, c'est que près de la main de ce guerrier, en arrière-plan, il y a un faisceau de lance qui rappelle le faisceau d'éclairs. C'est intéressant du point de vue de l'ésotérisme de voir que François Rude nous a donné plusieurs indices. Parce que l'ésotérisme, c'est-à-dire la façon de faire passer un message à travers une œuvre qui est visible de tous, mais seulement à un certain groupe d'individus,
oui.
C'est quelque chose qui est extrêmement subtil et technique. ça demande certains mécanismes. Et c'est-à-dire que c'est aussi un exercice d'équilibre. Parce que d'un côté, on ne veut pas que les profanes décèlent les niveaux ésotériques,
oui.
Mais on veut que les initiés les perçoivent. Parce qu'il faut bien comprendre que l'initié ne connaît pas au départ le message qui est envoyé. Ça n'aurait pas de sens d'envoyer un message à quelqu'un qu'il connaît déjà.
Bien sûr.
En fait, l'initié, il sait seulement, en reconnaissant certains signes, qu'il y a un message à découvrir.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'il se trouve dans un état d'esprit qui est complètement différent de celui du passant non initié.
Ouais. Le touriste moyen, voilà. Qui tourne autour de l'Arc de Triomphe.
Et c'est cette différence extrêmement subtile qui va faire qu'il va pouvoir se rendre compte qu'il y a des messages cachés. Alors, ces messages sont subtils et chacun des indices, comme les quatre dont nous venons parler, n'est pas suffisant pour apporter une preuve. C'est-à-dire que la physionomie qui ressemble à celle de Zeus, ça peut être une coïncidence.
Oui.
Le fait qu'il y ait un faisceau de lance en arrière-plan, ça ressemble un peu au faisceau d'éclairs de Zeus, mais ça pourrait être une coïncidence.
C'est ce que dit un petit peu le narrateur au début à son ami Ursule. Il dit oui, bon, très bien, mais il n'y a pas de preuve dans tout
voilà.
Ça.
Mais là, nous avons déjà, rien que pour l'identification du guerrier à Zeus,
oui.
Nous avons là quatre indices. Sans oublier celui que nous avons dit avant, c'est que nous avons Athéna qui a l'air de sortir de sa tête.
Oui.
Et ce qui est intéressant pour l'initié, c'est de voir que quand il a décelé la présence d'Athéna, ceci lui permet d'expliquer le guerrier qui est au-dessous. Il pourrait se dire, si je pense qu'Athéna est en train de naître, je devrais trouver Zeus dessous.
Oui.
Et quand on regarde le personnage qui est dessous, on voit que par plusieurs aspects, il ressemble à Zeus. Mais ce n'est pas tout. Comme je l'ai dit, sur les représentations classiques de la naissance d'Athéna, de chaque côté de Zeus, il doit y avoir cette déesse de l'enfantement qui est représentée en double. Or, sur la Marseillaise, sur l'Arc de Triomphe, nous avons deux personnages qui lèvent la main avec ce mouvement très caractéristique qu'a la déesse Elithi vers le haut, qui semble assister à la naissance. C'est-à-dire qu'ils ont l'air de mimer, en fait, la scène de la naissance d'Athéna.
Oui.
Et pour finir, aux extrémités de la sculpture, nous avons un personnage qui ressemble par certains aspects à Héphaïstos, mmh. Et qui ne tient pas une hache double, mais un glaive. Et il semble évident que c'est avec ce glaive...
C'est plutôt un vieillard d'ailleurs, hein, c'est
oui.
Ça
oui. Et c'est avec ce glaive qui vient d'ouvrir
et
le crâne.
Et de l'autre côté, Poséidon.
Nous avons Poséidon, c'est-à-dire un soldat qui a cette posture qui est souvent donnée à Poséidon, puisque Poséidon est représenté parfois soufflant dans une conque marine,
oui.
Et celui-ci, sur la sculpture, il souffle dans un corps.
Oui.
Mais surtout, derrière lui, en arrière-plan dans sa tête, il y a trois pointes de lance, qui rappellent évidemment le trident du dieu de la mer.
Oui, absolument.
Donc nous avons en fait une transposition très précise de la naissance d'Athéna sur la Marseillaise.
Ouais.
Et ça, c'est le premier niveau de lecture. Évidemment, on n'est pas plus avancé parce qu'on se demande ce que ça vient faire là-dedans.
Et surtout, on se dit quel est le rapport entre ce niveau de représentation ésotérique et la tauroctonie et Mitra.
Voilà, et c'est ici qu'en fait, il faut expliquer ce que François Rude a mis en place dans cette sculpture. Oui. C'est un véritable jeu de pistes, où le premier indice renvoie à un deuxième indice, qui renvoie, lui, au troisième. Il y a en fait un encheminement et une suite d'indices à suivre pour arriver à la conclusion. C'est-à-dire qu'on va passer par des étapes intermédiaires, et cette étape de la naissance d'Athéna est une étape intermédiaire. Elle n'est pas une fin en soi. Elle va seulement nous guider vers deux niveaux de lecture supplémentaires. Et je peux démontrer comment.
Alors, allez-y.
Voilà. Maintenant que nous avons identifié ce grand guerrier à la figure de Zeus, eh bien, nous remarquons que, sur la sculpture de François Rude, il y a un jeune garçon à côté de lui.
Mmh.
Et ce guerrier le tient par les épaules. Il est des représentations de Zeus qui tient aussi un jeune garçon. Ce sont des représentations qui font référence à la scène mythologique du rapt de Ganymède. C'est-à-dire que c'est cette
chansons
scène...
de Zeus,
oui.
Qui est l'amant, hein, voilà. L'amant aussi.
Qui est l'amant de Zeus, exactement.
Une forme de pédérastie bien traditionnelle chez les Grecs, et donc chez leurs dieux.
Oui, et donc nous identifions maintenant, à partir de Zeus, le jeune garçon de la sculpture de François Rude. C'est une référence à Ganymède. Vous voyez le cheminement. Nous étions partis au départ de ce gorgonéon sur la poitrine de la figure de la Victoire, qui nous a envoyé vers Athéna. En ajoutant le cri à ceci, nous avons compris que c'était Athéna en train de naître.
Oui.
En comprenant que nous avions affaire à la naissance d'Athéna, nous identifions Zeus, d'où Athéna naît. Et maintenant que nous avons Zeus, nous reconnaissons Ganymède.
Oui.
Ça fait déjà un certain nombre d'étapes.
Tout à fait.
Mais nous sommes qu'au tout début, et le livre raconte le cheminement dans son intégralité. Alors, pourquoi Ganymède ?
Oui.
Alors, pour deux raisons. La première, c'est que Ganymède est associé à la constellation du Verseau.
Oui.
C'est-à-dire que, en fait, c'est, voilà. Comme sur la sculpture, nous avons d'un côté un lion qui est gravé sur le bouclier du guerrier, et de l'autre côté, un bélier qui est gravé sur son casque. Si l'on pense...
Là, on commence à avoir quelques signes astrologiques du zodiaque.
Voilà. Exactement. Et on peut se poser la question, est-ce que Rude a voulu que je cherche les signes du zodiaque? Ganymède représente un indice très clair, puisqu'il est associé au Verseau. Mais ce qu'il représente de plus intéressant du point de vue de l'ésotérisme et de la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il représente une clé de lecture. C'est-à-dire qu'il nous indique non seulement qu'on doit chercher les signes du zodiaque, mais comment on doit les chercher. Puisque Ganymède, selon la mythologie grecque, a été transformé par Zeus, puisque Héra, sa femme, était jalouse de cet amant de Zeus, il a été transformé par Zeus en la constellation du Verseau.
Oui.
Cela nous dit donc que les autres signes du zodiaque, on ne doit pas les chercher directement en tant que tels, mais on doit chercher les figures mythologiques qui furent transformées, les Grecs disaient catastérisées, transformées en astres, en signes du zodiaque. Ératosthène de Cyrène, dans ses catastérismes, décrit toutes ces transformations-là.
Oui.
Donc maintenant que nous avons cette information, nous partons à la recherche des signes du zodiaque. Alors certains sont très figuratifs, notamment le lion et le bélier, puisqu'ils sont représentés en tant que tels. Mmh. Mais Ganymède... pas Ganymède. Il y a d'autres signes qui sont représentés de façon beaucoup plus subtile.
Oui.
Par exemple...
Oui, d'ailleurs, certains signes, c'est le narrateur lui-même qui va les trouver, et non plus Ursule.
Voilà.
Dans le livre.
C'est à partir du moment où il change un peu dans sa mentalité, dans sa façon de voir les choses.
C'est ça.
Il sort de son retrait et commence à s'investir.
C'est ça.
Alors, Rude a utilisé de nombreuses méthodes pour cacher ces signes du zodiaque. Certains sont assez figurés, comme le lion...
Oui.
Et certains sont beaucoup plus à trouver, beaucoup plus difficiles à trouver,
oui.
Comme Ganymède.
Mm-hmm.
Il faut penser au Verseau. Je peux donner un autre exemple. Par exemple, c'est la constellation des Gémeaux. Alors sur la sculpture, il y a deux personnages qui sont côte à côte, enfin l'un derrière l'autre, un petit peu décalés, et qui ont la même posture, tous les deux, un bras levé. Donc on peut se dire, ce sont des candidats potentiels pour des Gémeaux.
Tout à fait.
Mais comme pour les confirmations qui nous ont permis d'identifier Zeus, Rude donne toujours plusieurs indices qui permettent de confirmer.
Ouais.
Et donc, qui sont les personnages mythologiques qui furent transformés en la constellation des Gémeaux ? C'est Castor et Pollux.
Tout à fait.
Et dans l'Odyssée de Homère, Homère fait dire à Hélène, parlant de ses frères, que Castor était un dresseur de chevaux, et que Pollux était invincible au pugilat, qui est un sport de combat.
Bien sûr.
Et on regarde la sculpture, et on voit que l'un de ces personnages tient justement la bride du cheval. Quant à l'autre personnage potentiel, serait-il Pollux ?
Pollux, le pugiliste. Pugilistique,
alors,
la lutte, par exemple.
Oui, mais notamment un sport ancêtre de la boxe anglaise, qui était très violent, et où les coups étaient... porté. Il y a des représentations grecques de pugilistes, notamment celle du pugiliste des Thermes, et elle est très, très intéressante parce que les ecchymoses sont représentées, et notamment le nez cassé, caractéristique de certains boxeurs.
Bien sûr.
Et si l'on regarde ce personnage sur la sculpture de François Ruse, il a manifestement le nez plat.
Ah, quand même.
Nous avons donc Castor et
c'est
Pollux.
C'est plus que troublant, là.
les deux Gémeaux.
Alors, on a Athéna. Et qui naît du crâne de son Olympien de père, bien sûr, c'est Zeus. Vous avez Donc vous avez Zeus, et puis vous avez un certain nombre de représentants justement de cette Olympe qui nous conduit petit à petit à découvrir les héros des récits homériques, par exemple. Et de là, on peut dire qu'il y a les 12 signes astrologiques plus... Donc vous disiez trois,
quatre autres,
quatre oui. autres pardon, le corbeau, le serpentin,
l'hydre, la coupe ouais. et le serpent.
Voilà. Non. Ah et le quatrième vous l'avez retrouvé depuis. Donc le corbeau, non. l'hydre,
l'hydre, la coupe,
le corbeau.
Ça me reviendra plus tard.
D'accord. Oui, et il y a le scorpion aussi, mais le scorpion on le retrouve souvent d'ailleurs dans la tauroctonie puisqu'il vient piquer hein, littéralement cette pauvre bête, ce pauvre taureau.
Alors. Oui, c'est, vous aviez bien noté ça. Et en fait, c'est la même chose pour le lion. Parce que j'ai expliqué tout à l'heure que pour trouver les signes de zodiaque, il fallait utiliser les figures qui furent transformées en lion.
Ouais.
Et ce lion qui est représenté figurativement, en fait, ce n'est pas ce que Rude voulait qu'on voit comme étant la constellation du lion. Celle-là est un petit peu plus subtile. Ce guerrier dont nous avons parlé et qui ressemble à Zeus... Il a sur lui une fourrure
oui.
et deux pattes sont posées à l'avant, croisées sur sa poitrine.
Oui.
Ça, c'est typiquement une représentation de la léonté d'Héraclès.
Oui.
Héraclès qui avait tué le lion de Némée,
le lion de Némée.
Qui en avait gardé la peau et qu'on représente de cette façon-là. Eh bien, c'est donc cette peau qu'il faut voir comme la léonté et donc la référence au lion de Némée qui fut transformé en la constellation du lion.
Ah ben dites donc, vous avez vu, chers auditeurs, l'érudition de notre auteur Victor Baugé dans son livre La remarquable découverte de l'ami Ursule, un livre copieux, qui se lit très agréablement, mais extrêmement érudit, hein, comme vous pouvez le constater au travers de cette émission. Et nous continuons, donc on s'en rappelait le titre du livre La remarquable découverte de l'ami Ursule, c'est un livre de Victor Baugé, B-O-G-E-Y, en un seul mot.com, vous avez son site internet et vous pouvez vous procurer ce livre à la fois sur le site internet ou sur Amazon. Voilà, donc vous êtes dans le livre journal de la résistance française et eh bien nous résistons en quelque sorte par cette érudition et cette culture ce soir sur Radio Courtoisie, chers auditeurs. Victor, j'aimerais maintenant qu'on essaie de ramasser, avant d'aller au-delà et de dézoomer en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas que la sculpture en question dont on est en train de parler, la Marseillaise, hein, voilà, ou le chant des partisans, si j'ose dire, hein, c'est le
oui, ou le chant du départ.
Le chant, pardon, le chant du départ, ou voilà, les partisans, qui partent justement au combat. Alors oui, il y a quand même un élément qu'on n'a pas donné, qui est important, qu'on a oublié, c'est que, comme vous le disiez, il y a cette question de nord-est et de sud-ouest. C'est qu'en fait, ce que découvre très vite votre auteur, c'est qu'en fait, c'est une sculpture en miroir. Et réexpliquez-nous un petit peu l'aspect structure en miroir de cette sculpture sur l'Arc de Triomphe.
Bien sûr. Donc, l'ésotérisme, j'expliquais à quoi
donc,
ça droite, servait
gauche,
tout
gauche,
à
droite,
l'heure.
Ce qui explique pourquoi,
oui.
au lieu d'aller au nord-est, il va au sud-ouest.
C'est ça.
Parce que c'est en miroir.
C'est-à-dire que, pour faire passer des messages... qui soit invisible à certains et visible seulement à d'autres, il faut un certain nombre de mécanismes. Des mécanismes de dissimulation et des mécanismes de révélation. Là, le fait de sculpter une scène à l'envers, c'est-à-dire en inversant la gauche et la droite, en miroir, cela permet de la dissimuler. Puisque une scène qui est systématiquement toujours représentée de la même façon, toujours orientée de la même façon, si on la met à l'envers, en plus, si les personnages ne sont pas représentés tels quels, mais un peu dissimulés, eh bien, elle est plus difficilement reconnaissable. C'était donc un système de dissimulation, de sculpter
à l'envers.
Et c'est une technique qu'on retrouve sur de nombreux niveaux de lecture. La plupart des niveaux de lecture ésotériques de cette Marseillaise sont perceptibles sur cette image inversée.
Très bien. Une auditrice qui prend l'émission en cours, bonsoir à tous, interprétation originale du groupe de Rude que je prends en cours. Je ne voyais que le haut, maintenant je découvre le bas néoclassique, bien peu lié au message révolutionnaire et au bataillon braillard qui devait constituer les troupes révolutionnaires. La République est décidément une belle menteuse. La victoire du haut à la figure crispée de la Gorgone du Caravage, confirmez-vous. Bah, la Gorgone, on l'est, elle est surtout sur le médaillon. C'est plutôt Athéna, chère auditrice. Mais je vous conseille conseille vraiment de reprendre l'émission en même temps que de vous procurer ce livre, du début à la fin. C'est absolument nécessaire, il y a vraiment tout un linéament et on ne peut pas revenir totalement en arrière. Donc, est-ce que vous pouvez maintenant me regrouper ces niveaux de lecture pour donner un sens général, même si il faudrait revenir à chacun des niveaux, mais malheureusement nous n'avons qu'une heure et demie d'émission.
Alors oui, pour résumer ces niveaux de lecture, j'ai expliqué qu'en fait ils étaient nécessaires parce qu'ils représentent un cheminement logique, un cheminement qui nous emmène et qui converge vers un thème très particulier, celui du culte de Mithra.
Oui.
Ce qui est étonnant parce que cette sculpture, non seulement elle est censée représenter autre chose, mais elle a été réalisée au début du 19e siècle.
Oui.
Le culte de Mithra est censé avoir disparu à la fin du 4e siècle. Mais aussi, la connaissance du culte de Mithra est très récente. La recherche sur le mithraïsme, c'est l'affaire du 19e siècle.
Mmh.
À l'époque de François Rude, début du 19e siècle, la recherche sur le mithraïsme, c'est le 20e siècle. Mais à l'époque de François Rude, le mithraïsme n'était pas connu. Certains antiquaires connaissaient certaines pièces, mais il n'y avait pas d'efforts concertés pour faire de la recherche comme ça. On le fait maintenant. En ce moment, il y a des colloques régulièrement. Ce n'était pas le cas du tout à l'époque de Rude. Donc
ça,
on peut se poser la question.
C'est important et c'est à noter. Oui,
oui, d'où tenait-il cette connaissance?
Alors, c'est une connaissance d'initié.
D'autant plus qu'on a parlé des constellations supplémentaires, celles qui ne sont pas dans le zodiaque.
Oui.
François Rude les a représentées. Et quelque chose d'absolument étonnant, c'est que depuis très peu de temps, la fin du XXe siècle, les historiens ont réalisé que ces figures animales représentaient des constellations. Ça, c'est une information récente, à partir des années 1970. Or, sur sa sculpture, ces quatre constellations, François Rude les a représentées avec des positions les unes par rapport aux autres, qui sont celles des constellations dans le ciel. C'est-à-dire que lui savait qu'il ne fallait pas voir des animaux, mais les constellations qu'ils représentent. Et ça,
à l'époque, il n'était pas censé le savoir.
Non, les historiens l'ont su plus d'un siècle après.
Donc là, on peut dire de François Rude que c'est un initié. Et vous découvrez, en faisant des recherches, eh bien que c'est un franc-maçon. Et que la franc-maçonnerie, avec un grand et haut niveau d'initiation, eh bien, a partie prenante dans cette affaire.
Oui. Peut-être que pour les auditeurs, je me permettrais de présenter ça avec un cheminement un tout petit peu différent et de dézoomer, comme vous le disiez tout à l'heure.
Allez-y, sachant qu'il reste moins d'un quart d'heure. Je vous donne cette information, mais je vous en prie, Victor, allez-y.
Bien sûr.
Nous écoutons.
C'est-à-dire, jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur cette sculpture de François Rude. Et c'est absolument étonnant qu'il ait représenté à cette époque et dans ce contexte-là une tauroctonie mithriaque. Vous vous rendez compte, cette sculpture est monumentale. Elle fait 11,60 m par 6 m. C'est énorme.
Oui.
C'est probablement la plus grande tauroctonie au monde, puisque les temples de Mithra étaient souterrains et plutôt petits. Donc nous avons déjà quelque chose d'étonnant ici.
Oui.
Mais si on commence à dézoomer, à regarder autour de cette sculpture, vers l'Arc de Triomphe, on remarque que le thème du mithraïsme se poursuit. Par exemple, à côté de la sculpture, un petit peu en arrière, il y a la flamme du soldat inconnu.
Mmh.
Cette flamme, elle brûle, elle est encastrée dans une rosace sur lesquelles sont gravés des glaives.
Oui.
Et donc nous avons cette flamme avec des glaives en forme de rayon qui représente donc le soleil.
Oui.
Nous, si on regarde... en 1885, on sait que au sommet de l'Arc de Triomphe, une sculpture avait été installée. Et cette sculpture, c'est le triomphe de la Révolution d'Alexandre Falguière, qui représente un personnage tiré sur un char par quatre chevaux. Or, le soleil dont vous parliez tout à l'heure sur la tauroctonie mithriaque, il est justement personnifié par un personnage tiré sur un quadrige par quatre chevaux.
Quadrige, qui est représenté à l'époque de la mort de Victor Hugo. Ouais. À cette époque, lorsqu'il y a justement la mort de Victor Hugo et cette immense manifestation à Paris, on voit sur les représentations justement le quadrige qui est au sommet de l'Arc de Triomphe. Il fut un temps où il y avait ce quadrige, justement.
Donc, il fut un temps où il y avait ce quadrige. En ce moment, il y a cette flamme. Et cette, cette flamme, c'est vraiment étonnant, parce que pensez que c'était un symbole païen autrefois. La dernière flamme perpétuelle qui a existé en Occident, c'était celle des temples de Vesta à l'époque romaine.
Oui.
Et imaginez que, en 1923, dans une république qui se dit laïque et séculière, enfin dans un contexte séculier, on réinstitue un tel symbole, une flamme qui brûle. On pourrait se dire, c'est curieux. Peut-être que la mairie de Paris se serait dit, c'est pas bien prudent de faire brûler une flamme au niveau du sol. Ouais. Peut-être qu'il faut soucier des émissions de CO2. Mais non, il y a cette flamme perpétuelle qui ne s'est jamais éteinte depuis 1923.
Rallumée tous les jours.
Voilà. Et ça nous rapporte...
Sans exception, même le Covid, même le jour du confinement, même l'occupation allemande, l'arrivée des troupes allemandes dans Paris, ça n'a jamais pour autant interdit le fait de rallumer la flamme du soldat inconnu tous les jours.
Et cette flamme perpétuelle nous renvoie au thème de Mitra. Parce que...
Pourquoi ?
Frans Cumont, l'historien belge du début du XXe siècle, et qui a fait les premières grandes études sur le mitraïsme, a écrit, et il en était convaincu, que le mitraïsme qui est apparu au 1er siècle dans l'Empire romain avait des origines perses, notamment dans le zoroastrisme. Le zoroastrisme, c'est la religion des adorateurs du feu.
Tout à fait.
C'est-à-dire que dans leurs temples, ils font brûler des flammes éternelles.
Tout à fait.
Et si on regarde certains de leurs temples, comme celui d'Ateshga, en Azerbaïdjan, on remarque une étrange coïncidence dans la forme de ce temple avec l'Arc de Triomphe tout entier.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on a un monument tétrapile, avec quatre portes donc, et avec une flamme perpétuelle qui brûle au milieu.
Oui.
D'autant plus que des cérémonies ont lieu parmi les Zoroastriens autour de cette flamme, tout comme, vous l'avez dit, sous l'Arc de Triomphe, à 6h30 tous les soirs, on a une cérémonie, celle du ravivage de la flamme.
C'est ça.
Donc nous avons un certain nombre de coïncidences qui est extrêmement troublant.
Alors ça devient de plus en plus troublant. On continue à dézoomer, avec l'étoile peut-être.
Tout à fait. Si l'on regarde maintenant les pavés de la place de l'étoile, peu de gens le savent, mais ils sont en fait de trois couleurs. Les couleurs sont assez fades, c'est pour ça que c'est difficile à percevoir. Mais si les conditions atmosphériques le permettent, on remarque qu'en fait, il y a trois couleurs. Donc il y a le gris, le rose et le vert. Et que cela représente une gigantesque étoile à 24 branches. L'Arc de Triomphe est au centre d'une étoile à 24 branches.
Il y a 12 artères, comme les 12 signes du zodiaque, qui débouchent sur l'étoile. Il faut le savoir aussi.
Absolument. Ces 12 avenues séparent ou divisent le plan en 12 secteurs. Et ces secteurs-là sont parfaitement délimités par un cercle parfait, constitué par les rues de Presbourg et les rues de Tilsit. Nous avons donc cet Arc de Triomphe dans un soleil, dans un secteur ou dans une zone qui ressemble très fortement à un zodiaque. Et nous avons donc une représentation classique du zodiaque, puisque la représentation classique du zodiaque, c'est les 12 signes du zodiaque en cercle avec le soleil au milieu.
C'est ça. Et ça, vous avez retrouvé des représentations de la tauroctonie avec justement au centre d'une étoile.
Alors là, ça a été une grosse surprise.
Et la voûte aussi, la fameuse voûte, qui est voûte étoilée si on veut, voûte céleste, voûte des signes du zodiaque, que l'on retrouve malgré le fait que normalement cette tauroctonie a lieu dans une grotte.
Oui. c'est amusant en fait, parce que parmi toutes ces ressemblances dans la sculpture de François Rude avec la tauroctonie, il en manque une essentielle, c'est que François Rude n'a pas inclus cette représentation de la grotte.
Non.
Et j'ai finalement compris pourquoi. C'est parce que, j'ai remarqué que la même incohérence avec certains artefacts de la tauroctonie, c'est-à-dire même dans les temples de Mitra, certaines représentations du sacrifice du taureau n'incluent pas la voûte. Ce qui est quand même quelque chose d'essentiel. Si on pouvait faire une analogie, ce serait comme représenter une scène de la nativité sans les tables. Et j'ai compris pourquoi. Parce que les temples de Mitra étaient eux-mêmes une représentation du cosmos, qui est aussi ce que la grotte représente. Donc si vous faites un artefact qui est destiné à être placé dans un mitraum, il est déjà dans la grotte. Donc la grotte n'a pas besoin d'être représentée sur l'artefact.
D'accord.
Si on transpose ça maintenant à la sculpture de François Rude, où il n'y a pas cette grotte, il n'y a pas cette voûte, on réalise que François Rude a sculpté cette torchtonie qui est destinée à orner l'arc de triomphe. Vous voyez l'arc, la voûte, et d'ailleurs il est juste à côté de la grande arche de l'arc de triomphe. C'est-à-dire que c'est l'arc de triomphe qui complète cette torchtonie. C'est-à-dire que l'arc de triomphe prend le rôle du temple de la même façon que le mitraum complétait la torchtonie.
C'est ça.
Et donc de là, il y a beaucoup de points qui pointent vers le fait que cet arc de triomphe pourrait être lié ou vu comme un temple des adorateurs du feu, un temple à Mithra.
Un temple des adorateurs du feu, un temple à Mithra, qui est le temple culte, par ailleurs, l'arc de triomphe culte de la République.
En plein milieu de Paris, en plein jour.
Au cœur de Paris, et c'est cette République. Et ce que vous constatez, donc j'y reviens parce qu'il ne reste plus que 5 minutes, et je voulais quand même, j'insiste sur ce point, c'est que, eh bien, on retrouve derrière cela probablement des hauts niveaux d'initiation de la franc-maçonnerie. On pensait que la franc-maçonnerie, ça s'arrêtait au temple de Salomon. On pensait que ça s'arrêtait à Hiram et à ses disciples, aux constructeurs du temple et à ses secrets. Et on se rend compte qu'il s'agit là aussi peut-être d'un certain niveau exotérique, hein, pour le tout venant ou pour les premiers niveaux de l'ésotérisme franc-maçon, mais qu'en réalité derrière il y a un culte beaucoup plus mystérieux et que la franc-maçonnerie en quelque sorte eh bien, reprendrait ce que l'on pensait avoir disparu au 4e siècle, c'est ça, c'est-à-dire les cultes à mystère, cultes à Mithra, qui furent les grands cultes qui auraient pu, s'il n'y avait pas eu le christianisme, peut-être aujourd'hui, eh bien, voudrions-nous un culte à Mithra encore, puisque eh bien, c'est le christianisme qui a fait disparaître à une certaine époque cette religion, ce culte à mystère plus précisément, qui était entre autres révéré dans la Légion romaine.
Oui, tout à fait. Et alors, ce qui m'a pointé vers l'hypothèse franc-maçonne, ou le lien entre ou une filiation peut-être entre le mitraïsme et les francs-maçons, c'est que j'ai trouvé un logo moderne qui appartient à une organisation franc-maçonne qui s'appelle les Mystères de Mithra, en anglais, The Mysteries of Mithras, et qui représente ce logo. Ce logo reprend la composition exacte de la place Charles de Gaulle, c'est-à-dire qu'il a en son centre une représentation de la statue de la torchtonie, autour de laquelle il y a un soleil, autour de laquelle il y a le zodiaque. Alors, à partir de là, je me suis dit, peut-être qu'il y a un lien, ou alors ce serait une sacrée coïncidence. Et j'ai commencé à chercher plus de liens entre la franc-maçonnerie et Mithra, et j'en ai trouvé de très nombreux.
De très nombreux.
J'ai trouvé des liens avec certains auteurs, comme Rudyard Kipling, l'auteur du Livre de la Jungle, qui était franc-maçon et qui, dans un de ses recueils, a inclus un poème à Mithra. J'ai appris que Martin Luther King, à l'âge de 20 ans, avait écrit une étude du mithraïsme.
Mon père et grand-père étaient, eux, c'est certain, des francs-maçons.
Oui, ainsi que Rudyard Kipling, qui était lui-même franc-maçon. Et j'ai trouvé des choses plus récentes, notamment la dernière, c'est qu'il y a un musée de la franc-maçonnerie, un musée international de la franc-maçonnerie, dont la construction est en projet. Il y a un site internet là-dessus, et ils expliquent sur leur site que dans le sous-sol, ils vont construire un mitraum, reconstitution d'un temple à Mithra.
Les sous-bassements de la franc-maçonnerie, voilà, expliqué par Victor Baugé, la remarquable découverte, et elle est remarquable, de l'ami Ursule, ça c'est son héros dans le livre, mais sinon c'est une découverte évidemment de l'auteur qui retranscrit un certain nombre de découvertes dans ce livre romancé, dans ce roman qui se termine, eh bien, comme notre émission, dans 2 minutes. Donc juste pour vous, chers auditeurs, qui voudriez vous procurer le livre de Victor Baugé, Baugé, B-O-G-E-Y, la remarquable découverte de l'ami Ursule, eh bien, vous pourrez vous procurer ce livre pour voir aussi la chute finale, qui est intéressante, passionnante aussi, puisqu'il s'agit finalement d'un repas initiatique. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Il semblerait d'ailleurs, hein, c'est ce que vous dites, que dans ces cultes à mystère, cela se terminait par un repas et que peut-être était pris à ce moment-là, mais on n'en dira pas plus, un certain nombre de substances hallucinogènes qui feraient partie justement de l'initiation de ces mystères. Vous avez 1 minute pour conclure sur ce point. Et c'est terminé.
Oui. Et d'ailleurs, certains historiens pensent que le bonnet phrygien que porte Mithra est une référence au chapeau de champignons hallucinogènes.
Ah.
Un signe de reconnaissance, en quelque sorte. Et, mais ce n'est pas propre au culte de Mithra. D'autres cultes à mystère utilisaient des substances hallucinogènes. On retrouve dans certains temples d'autres cultes des restes de l'ergot de blé, par exemple, qui produit les mêmes effets.
Oui,
donc
ouais.
Il semblerait qu'il y ait une recherche de ce genre d'expérience qu'on appelle entéogène, c'est-à-dire mystique.
Eh ben dites donc, je trouve on n'a pas perdu ni son temps et puis on l'a pas vu le temps passer hein, pendant une heure et demie. Non. On devait faire Lara devait venir pour une petite revue de presse. Finalement, elle se repose, elle a bien le droit. Elle a des fins de semaine difficiles avec des émissions de télé, hein, de matinale. Donc voilà, elle n'était pas là aujourd'hui, ce qui fait que nous avons passé une heure et demie avec Victor Bauger, La remarquable découverte de l'ami Ursule. C'est le titre de son livre, chers auditeurs. Eh bien, un grand merci, Victor.
Merci de m'avoir reçu.
Eh bien, écoutez, on était très heureux de vous avoir. Ce sont des découvertes remarquables. Je vous incite vraiment, chers auditeurs, à lire ce livre. C'est essentiel. Et à regarder aussi le site de Victor, victorbauger.com. Merci, chers auditeurs, de votre écoute attentive. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à samedi pour un libre journal de géopolitique profonde. Merci encore de votre écoute sur Radio Courtoisie.
Vous venez d'entendre le libre journal de la Résistance française dirigé par Nicolas Stocker, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 1er juillet 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.